J'en dirai des nouvelles.
Jean-François Cadet.
Mickaël Goncalves.
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Cet écrivain britannique est le créateur du très tourmenté Patrick Melrose que les téléspectateurs de Canal Plus vont apprendre à connaître à partir de ce lundi soir sous les traits de Benedict Cumberbatch avec la voix française de Gilles Morvan qui nous rejoindra en deuxième partie d'émission. Mais Edouard Saint-Aubin est doublement dans l'actualité car son nouveau roman sort ce mercredi en France et l'on y retrouve ses thèmes fétiches. Comme avec Melrose, il y est question de paternité et de pouvoir, d'alcool et d'addiction. On y retrouve aussi cette verve, cette cruauté, cette capacité qui est la sienne d'être aussi drôle que tragique et de nous faire plonger avec jubilation dans les bas-fonds et dans les tréfonds de l'âme humaine. Dunbar et ses filles, le nouveau roman d'Edouard Saint-Aubin, traduit de l'anglais par David Faucambert, est publié chez Grasset et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Edouard Saint-Aubin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Le sous-titre du livre, c'est « Le roi Lear ». Revisiter la pièce de Shakespeare, c'était votre point de départ ou bien est-ce que le personnage de Roi Lear vous a rattrapé en chemin, en cours d'écriture?
Non, c'était le point de départ choisi par la maison d'édition dans le sens qu'il voulait faire une série de romans basés sur des pièces de Shakespeare. Mais chaque écrivain pouvait choisir leur pièce préférée, j'ai choisi Lear.
Shakespeare, pour un écrivain britannique comme vous, pour un écrivain peut-être tout court, c'est un maître?
Oui, bien sûr, c'est un maître. C'est le toute la littérature anglaise déroule de là.
Mais c'est un auteur, c'est aussi un metteur en scène, un écrivain? D'ailleurs, puisque c'est effectivement une pièce de théâtre que vous avez choisie, écrire un roman, c'est mettre en scène des personnages. C'est comme ça que vous voyez votre rôle d'écrivain?
Non, mais je crois que le fait qu'on a commencé avec un drame, dans ce cas, a influencé le roman, que c'est... C'est parmi mes romans, c'est le plus dynamique et on voit l'influence derrière de la trame.
Alors très très clairement, comment est-ce que vous avez procédé? Vous êtes parti du texte de Shakespeare ou bien vous en êtes imprégné dans votre esprit et vous avez laissé votre imagination faire le reste?
J'ai étudié King Lear pour A-level, qui est l'équivalent anglais du bac. Alors, c'est la seule fois dans ma vie que j'ai passé 2 ans avec un texte. On fait jamais ça. Après, on n'a pas le temps. Alors, j'ai été, si vous voulez, mariné dans King Lear à l'âge de 16 ans et 17 ans. Et quand j'ai accepté de cette commission, pour commencer, j'ai décidé de ne pas relire la pièce parce que et simplement d'utiliser les thèmes de la pièce. Mais j'ai regardé un film de Lear fait par Peter Brook avec Paul Scofield jouant Lear. Mais c'était une version très très noire, sans aucun espoir. J'ai presque annulé le contrat.
Oui, ah bon? Vous avez eu peur?
Oui, j'ai eu peur. J'ai eu peur, bien sûr, aussi, parce que c'était Shakespeare. Mais après ça, je l'ai relu très vite, et puis j'ai laissé tomber.
Mais cette revisite, Edouard Saint-Aubin, c'était forcément pour vous un roman. Vous ne vouliez pas faire une pièce de théâtre?
Ah non, pas du tout, non. Le pièce de théâtre est déjà fait, déjà... Parfait. Moi, je peux pas écrire une grande pièce de théâtre en 1609, mais par contre, Shakespeare ne peut pas écrire un roman en 2016. Alors, chacun a son métier. J'allais pas écrire une pièce quand même.
Mais tout de même, c'est un roman, hein, on est bien d'accord. Dans ce roman, les dialogues ont une part vraiment très très importante. D'ailleurs, le premier chapitre est presque entièrement un dialogue. Pourquoi est-ce que vous avez donné autant de place justement au dialogue, aux conversations entre les personnages?
Tous mes romans ont beaucoup de dialogues, mais je crois que le dialogue, c'est la façon de rentrer au milieu des choses le plus vite. Et c'est quelque chose que Shakespeare fait toujours. Il explique le moins possible. Il vous lance au milieu de l'action. Alors c'est pour ça que le premier chapitre est dominé par dialogue. Mais quand Dunbar est seul, il y a presque aucun dialogue du tout. Il y a trois ou quatre chapitres.
Parce que là, vous nous emmenez dans sa tête, dans la psychologie effectivement de votre héros. Alors quand le lecteur découvre Dunbar, il est pensionnaire d'un foyer pour personnes âgées dans le nord de l'Angleterre, et il ne rêve que d'une chose, c'est de s'enfuir, ce qu'il va faire avec un autre pensionnaire, un ancien acteur nommé Peter Walker. Alors ils forment tous les deux un sacré duo. Hein. On peut dire que c'est le roi et le fou du roi.
C'est ça, c'est mon équivalent du fou dans le Roi Lear. Mais le fou dans le Roi Lear, il est pas du tout rigolo. Mais j'espère que Peter Walker, de temps en temps.
Il l'est beaucoup plus. Et pourtant, il est dépressif, il est alcoolique, il est suicidaire, il est un petit peu, un peu clochard sur les bords. Il est un peu pathétique, mais c'est un personnage extrêmement attachant. On s'identifie très, très facilement à lui, à Peter.
Oui, c'est ce que j'espérais, et qu'il serait amusant et attachant. Le fou dans la pièce est tout le temps en train de rapprocher, de faire de la morale au roi, de lui rappeler que quand si on perd tous ses biens, on devient puissant, etc. Mais je fais pas ça avec mon fou. Il est gentil.
Oui. Et votre roi, à vous, c'est effectivement un puissant, c'est un homme de pouvoir. Hein. On découvre évidemment que c'est un roi déchu, donc il a perdu sa puissance. Alors, on n'est pas dans le pouvoir politique, comme dans le Roi Lear, on est dans le pouvoir économique et dans le pouvoir médiatique. Vous avez fait de votre personnage un patron de presse. Pour quelle raison? Ça veut dire que pour vous, le vrai pouvoir aujourd'hui, c'est le pouvoir des médias?
Voilà, je cherchais l'équivalent d'un roi, et c'est évidemment pas un roi, ni un homme politique qui peut être élu pour quelques années et puis perdre sa place. Mais c'est l'équivalent, je crois, moderne, c'est l'élite mondiale des super riches qui ont une influence sur la politique d'au moins un pays et souvent sur plusieurs continents.
Voilà. Et c'est aussi un père qui n'a pas de mots assez durs contre ses filles, qu'il qualifie de monstres, de vautours. Il faut dire qu'il leur a tout donné, hein, à ses deux grandes filles. Elles l'ont trahi, et de la manière la plus vile qui soit, vous dressez, Edward Saint-Aubin, un portrait absolument horrible, absolument terrible de ces deux filles qui s'appellent Abby et Meghan, qu'on peut rapprocher des Goneril et Regan de Shakespeare dans Le Roi Lear. Vous les aimez beaucoup, hein, ces personnages cruels, ces personnages sans scrupules, ces âmes noires. Un beau personnage est forcément négatif?
Non, je crois que c'est certainement plus difficile d'écrire un personnage plein de bonté, de charité. Quand Balzac a fait son roman basé sur Lear, c'est-à-dire le père Goriot, il a évité le problème entièrement de la bonne fille,
oui,
de Cordelia. Il a dit, oh, c'est trop difficile, parce que dans la pièce, elle est presque pas humaine, c'est une ange. Alors moi, j'ai essayé de créer quelqu'un qui était gentil en même temps.
Voilà, c'est le personnage
intéressant
de Florence, voilà,
Florence,
qui est intéressant.
Oui.
Mais c'est vrai que Meghan et Abby occupent quand même une place majeure dans le livre.
Ils sont atroces. Et c'est, c'est certainement plus facile pour un auteur de caractériser le côté sombre de la condition humaine.
Oui, c'est vrai que ce sont de vrais nymphomanes aussi, hein, ce qui vous permet au passage de raconter des scènes sexuelles qui sont à la fois très drôles, un peu bizarre, on va pas en dire plus.
C'est bizarre, oui.
Très hypocrite. hein, aussi. Et puis elles ont, surtout Meghan d'ailleurs, hein, une certaine force politique aussi. De ce point de vue-là, ces deux filles ont hérité de leur père.
C'est ça, et c'est le drame psychologique qui n'est pas vraiment expliqué dans la pièce. Pourquoi les deux filles sont tellement différentes? Freud a demandé où qui était la reine Lear. Alors ma réponse, c'est qu'il en avait deux. Il a deux filles qui sont psychopathes et une fille qui est très gentille. Pas par hasard, mais parce qu'ils ont des mères différentes, etc., etc. Dans le roman qui est, il faut, ou le genre de roman que j'écris, il faut avoir une psychologie qui est plus réaliste que dans la pièce de King Lear.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Avec l'écrivain britannique Edward Saint-Aubin pour son nouveau roman Dunbar et ses filles qui sort mercredi aux éditions Grasset. Tout commence en fait à la chute de votre personnage Dunbar. Tout commence par un symbole, une glissade un peu stupide pendant le forum de Davos dans les Alpes suisses. Davos qui est un peu la mecque du libéralisme, à l'endroit où tous ceux qui croient dans la mondialisation libérale vont tous les ans. Ce roman, Edward Saint-Aubin, c'est aussi une vraie critique du pouvoir, non pas du pouvoir politique, mais du pouvoir de l'argent.
Oui, mais elles sont bien sûr liées, parce que il a un empire médiatique, alors il peut avoir une grande influence sur les élections. Et il touche sur ça dans ses mémoires quand il est seul.
Mais votre roman, là, c'est un livre de gauche? C'est un livre anticapitaliste?
C'est un livre... Il y a une citation que je vais vous lire de Léa même, où le roi dit « Ah, je n'ai pas pris assez de soin de cela. Orgueil somptueux, viens essayer de ce remède. Expose-toi à sentir ce que sont les malheureux, afin d'apprendre à leur jeter tout superflu et nous montrer les cieux plus justes. » Pardon, c'est mal lu, mais ça, c'est quelque chose que le roi Léa reconnaît au milieu de la pièce.
Oui, parce que l'histoire, c'est aussi une histoire d'apprentissage, c'est-à-dire que le personnage va beaucoup changer au fur et à mesure que l'histoire avance, notamment pendant la fuite, hein, de Dunbar, qui va donc quitter son foyer pour personnes âgées, d'abord donc avec le fou du roi, hein, comme on disait tout à l'heure, qui s'appelle donc Peter, ensuite tout seul, il va se retrouver au bord d'un lac, et ensuite dans la neige, et il va y avoir une poursuite, hein, une traque, puisque ses filles ont très envie de le retrouver, ils veulent le retrouver à tout prix, et pendant ce temps-là, Dunbar va beaucoup réfléchir sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il est devenu et sur ce qu'il est. Nous sommes page 159 de votre roman.
Oui, il devait repartir. Même si ses genoux le suppliaient de s'asseoir et ses lombaires de s'allonger, même si ses muscles l'imploraient de poser son corps quelque part, il commença à fouler docilement l'herbe mouillée, faisant de son mieux pour aller de l'avant et respecter le désir fort compréhensible de cette vallée de se débarrasser de lui. Il était un mauvais homme polluant un lieu enchanté, et la moindre des choses, maintenant, c'était de se retirer. À l'époque où il régnait encore un empire mondial, sa cruauté, son goût de la vengeance, ses mensonges et ses coups de sang avaient pu être présentés comme des actions nécessaires d'un commandant en chef déterminé. Mais dans le dénuement de sa situation actuelle, ses actions s'imposaient à lui dans toute leur nudité et lui hurlaient dessus comme d'anciens prisonniers qui auraient reconnu leur tortionnaire dans la rue. « C'est lui, il m'a arraché les ongles des doigts, m'a brisé les rotules, il a détruit mon couple, il m'a forcé à démissionner, il m'a envoyé en prison. » Il était trop faible pour leur trancher la gorge, trop blessé pour s'enfuir. Il se trouvait dans la position, pour lui, inhabituelle, de devoir rester planté là, à écouter leurs points de vue respectifs. il ne pouvait pas les virer, ni les détruire. Elles n'étaient pas ses employées, ni ses concurrentes. Elles étaient ses souvenirs, remodelés à la lumière nouvelle de la misère et de la vulnérabilité. Il ne servait à rien de solliciter une injonction du tribunal pour les réduire au silence, ou de dire à ses rédacteurs en chef de lâcher les chiens sur eux afin de lacérer leur réputation. Il ne pouvait même pas les tourner en ridicule, alors qu'elle s'acharnait déjà à le ridiculiser, lui. Toutes les personnes auxquelles il avait fait du mal au cours de sa vie, toute une foule à vrai dire, étaient en train de transformer leur plaie en autant d'armes. Il tenta de hâter le pas, trébuchant une ou deux fois dans cet effort désespéré pour échapper à la mémoire ennemie qui était en train de le chasser, et bien du centre de son psychisme. Il n'arrivait peut-être pas à se débarrasser de ces choses qui bouillonnaient en lui, au bord de l'éruption, mais peut-être qu'au sommet de la prochaine colline, il y aurait un précipice, où il pourrait se jeter, tête la première, sur les rochers, pour faire exploser son cerveau, l'expulser une bonne fois pour toutes, réaliser l'opération nécessaire et se vider le crâne de tout ce trouble, en partant de ce constat impitoyable, la seule manière de sauver sa vie, c'était d'y mettre fin. Toutes les choses dont il avait pu avoir honte dans sa vie semblaient s'être distillées dans l'élixir de sa propre cruauté. Œil pour œil, telle était la loi. Elle le courbait de force pour lui coincer la tête dans un étau et lui découper les paupières. Non, s'il vous plaît, pas ça. Plus il montait en altitude, plus sa vision se faisait floue, nourrissant sa crainte de finir aveuglé par le venin de ses crimes accumulés. Il prit sa tête entre ses mains puissantes pour bien montrer à quel point elle était prise au piège, mais aussi dans l'espoir de trouver miraculeusement la force de l'arracher à cet étau, d'empêcher le liquide corrosif et brûlant de tomber, goutte après goutte, dans ses précieux yeux sans défense. « S'il vous plaît, non, je vous en prie !» L'angoisse menaçait de faire exploser son cœur. Il parcourut les derniers mètres à quatre pattes et s'effondra sur le front de la colline.
Édouard Saint-Aubin, je parlais de roman d'apprentissage il y a un instant. C'est vrai qu'à travers cette épreuve, à travers tout ce qu'il subit pendant votre roman, au fond, Henry Dunbar, il a l'impression de découvrir sa propre humanité. Fallait presque dire de découvrir qu'il est un être humain.
Absolument, oui. C'est le voyage essentiel. C'est un voyage vers la connaissance de soi-même et aussi du pouvoir et de l'abus du pouvoir jusqu'à l'amour. Alors il fait ce voyage très tard et dans un temps très compressé,
restreint.
Oui, très restreint. Il a presque pas les capacités mentales pour apprendre la leçon qui tombe sur lui tellement tard dans la vie.
Et c'est en fait une leçon, mais est-ce qu'on pourrait aussi dire que c'est un châtiment, Édouard Saint-Aubin, le châtiment de ses propres actes, de ses propres actes de traîtrise finalement. Il a fait exactement ce que ses mauvaises filles sont en train de lui faire.
Oui, il a fait ça. Ce que vous venez d'entendre, c'est la culpabilité qui fait partie de son voyage. Mais il arrive au-delà de ça après.
Mais est-ce que la souffrance est la condition d'une forme de lucidité? Est-ce que pour parvenir à la vérité, il faut souffrir?
Certainement, oui. Mais d'ailleurs, on peut souffrir sans parvenir à la vérité.
Aussi.
Mais on peut pas parvenir à la vérité sans souffrir, ça c'est certain, oui.
Après le bruit et la fureur, entre les chiens et les loups, j'essaie de trouver ma place, prisonnière du temps qui passe. Je suis une femme à genoux. Je n'y peux rien, j'aime la lumière, même si je m'y suis brûlée. J'ai cru aux amours d'un soir, mais j'ai brisé le miroir quand le soleil s'est levé. J'ai récité toutes les prières, compris où je m'étais trompé. Si les hommes savent se taire, alors je pourrais oublier.
voulais passer ma route, si je voulais tout arrêter, piquer ma vie d'un seul shot, comme pour dissiper le doute, et simplement m'effacer. Je leur dirais qu'ils sont les meilleurs, même s'ils n'ont rien. Inventerait des douleurs pour qu'il n'ait plus jamais peur de ne pas savoir aimer. Je réciterai toutes les prières, dirai que je me suis trompée. Si les hommes savent se taire, alors je pourrais.
Je pardonnerai Sheila dans VMDN sur RFI avec l'écrivain britannique Edward Saint-Aubin qui publie Dunbar et ses filles chez Grasset. Le livre sort mercredi en France et le comédien Gilles Morvan nous a rejoint. Bonjour. Vous êtes ici parce que vous êtes la voix française de Patrick Melrose, le héros créé par Edward Saint-Aubin et adapté à l'écran dans la série britannique dont Canal Plus diffuse ce soir les trois premiers épisodes, série disponible également en intégralité sur Canal à la demande. Mais cette chanson, Gilles Morvan, là, cette chanson de Sheila, elle vous dit forcément quelque chose.
Ah oui, forcément, oui.
Pourquoi?
Parce que je l'ai corrigée, coécrite avec Yves Martin. Et voilà, et que vous m'entendez chanter dans les chœurs derrière aussi.
Voilà, vous voilà. Avez accompagné Sheila sur scène.
Très longtemps, pendant une quinzaine d'années, je l'ai accompagné sur scène, j'ai été son directeur musical aussi, enfin bon voilà.
Vous avez fait plein de choses dans votre carrière artistique. Alors je vous présente comme comédien, mais c'est un petit peu plus large que ça en fait.
Oui, parce que je suis comédien par nécessité depuis une vingtaine d'années. Nécessité.
Par nécessité ou par passion?
Ah non, par passion. Mais dans un premier temps, ça a été par nécessité. Et surtout, en fait, je me qualifie de comédien aujourd'hui parce que je fais un métier de comédien essentiellement dans le doublage. Mais au départ, je suis plutôt musicien, chanteur.
Alors, je pardonnerai, c'est donc le titre de cette chanson. Je ne sais pas si votre héros Dunbar pourrait le reprendre à son compte, Edward Saint-Aubin. Je ne sais pas non plus si Patrick Melrose pourrait reprendre cette formule « Je pardonnerai » à son compte vis-à-vis de son père. En tout cas, c'est l'un des suspenses de la série de livres que vous avez écrit et de la série qui démarre donc ce soir sur Canal+. C'est donc un héros, Patrick Melrose, qui est né sous votre plume, Edward Saint-Aubin, et que les spectateurs vont donc découvrir ce soir, série britannique de 5 épisodes de 52 minutes, réalisée par Edward Berger sur une adaptation de David Nichols avec Benedict Cumberbatch dans le rôle-titre.
Monsieur Melrose, c'est un plaisir de vous revoir.
Patrick, alcoolique, schizophrène, narcissique, suicidaire.
Patrick Melrose, tout le monde te croyait mort.
Seulement par intermittence.
You're on. Personal Jesus.
Vous faites une crise de délirium tremens. Vous savez ce que c'est, Monsieur Melrose?
Someone to hear your prayers. Someone who cares.
J'en ai plus qu'assez des fantômes.
Tu ne dois plus perdre de temps désormais.
Et cette voix extrêmement grave qu'on a entendue, c'est donc la vôtre, la voix française de Patrick Melrose, Gilles Morvan. C'est vous qui doublez en français, Benedict Cumberbatch. Comment est-ce que vous êtes retrouvé dans cette aventure?
De Patrick Melrose ou de...
De Patrick Melrose.
Ou l'aventure Cumberbatch. Patrick Melrose, tout simplement, on m'a demandé la boîte qui doublait donc la série, qui avait été commanditée par Canal+. Ça a voulu que ce soit moi par rapport au travail qu'on a fait dans Sherlock.
Voilà, parce que vous aviez déjà doublé Cumberbatch dans la série Sherlock. C'est pas un contrat, c'est-à-dire que dès qu'on voit Cumberbatch sur un écran, c'est pas forcément votre voix qui correspondra à ces différents personnages.
Non, même si le fait que je ne le double pas systématiquement vient d'autres petits problèmes internes au métier de doubleur.
C'est un peu compliqué, mais souvent les grands acteurs ont leur doubleur attitré. C'est pas systématique, mais
c'est devenu de plus en plus rare en fait.
D'accord.
Voilà. Il fut une époque, oui. Effectivement, on imagine mal Bruce Willis sans la voix de Patrick Poivet en français, par exemple. Mais ça arrive quand même de temps en temps. pour des raisons un peu internes au métier, je me répète.
Bon, alors, on va dire tout de suite, la performance d'acteur de Benedict Cumberbatch est absolument impressionnante, elle est vraiment à couper le souffle, il a été nommé d'ailleurs aux Emmy Awards pour ce rôle, mais lui, il joue pas seulement avec sa voix, il joue avec son corps, et quand on joue un toxicomane, un alcoolique ou un dépressif, le corps, ça compte beaucoup. Vous, vous êtes devant votre micro, le micro et l'écran.
Et l'écran.
C'est comme ça que ça se passe. Est-ce que vous utilisez aussi votre corps pour entrer dans votre personnage?
Tout le monde ne le fait pas, mais ceux qui le font ne le font pas dans la même mesure. Moi, je m'oublie. J'aurais vraiment beaucoup de mal à vous dire. Je sais que mes partenaires de bar, comme on dit, ne prennent pas mes mains dans la figure quand je joue.
Oui.
Donc je gesticule pas énormément. Mais par contre, je m'oublie complètement. Donc j'aurais du mal à vous dire. Moi, si quand il pleure, je pleure réellement avec lui. Donc je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non.
Mais est-ce que vous diriez que le doublage, c'est une activité physique ou psychologique?
Les deux, pas avec le même curseur. On va dire 80% psychologique et 20% physique, ouais.
Quelles sont les qualités d'un bon doubleur, Gilles Morvan?
Faut être un bon comédien.
Les vôtres.
C'est
voilà, on va dire tout simplement. un bon comédien. Oui, mais alors justement, le comédien, il joue très souvent avec son corps. Encore une fois. Et là, visiblement, c'est pas tout à fait. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut utiliser d'autres ressources.
Voilà,
qu'il faut mettre
en
valeur d'autres qualités.
Mais pour avoir travaillé avec des comédiens très connus à l'écran. Très connus à l'écran.
C'est bien dommage que vous ne donniez pas de nom.
Non, oui. Je veux pas donner de nom. Ça sert à rien parce que je vais pas forcément dire du bien. Mais c'est difficile pour eux de pouvoir jouer parce que il faut pouvoir jouer vraiment quelque chose d'extrêmement profond, d'extrêmement intense, sans son corps. Donc beaucoup de comédiens se reposent sur des gros regards, des yeux, des visages, des attitudes qu'on ne peut pas avoir. On s'en fout parce qu'on ne les entend pas. Donc il faut jouer avec autre chose.
Et donc, vous jouez avec quoi? Avec la tonalité de votre voix? Avec le timbre? Il y a une préparation vocale préalable?
Sur Benedict Cumberbatch, j'ai tendance à me prendre un peu toujours de la même manière. En plus, il a cette élocution extrêmement élégante, en tout cas dans Sherlock et dans Patrick Melrose. Il y a ce côté très élégant de l'anglais Cumberbatchien que j'essaie de garder avec une espèce un peu de musique. Mais après, effectivement, je me prends vraiment dans mon grave.
Ça veut dire qu'il y a une forme d'imitation quand même dans votre travail. Vous avez l'obligation pas forcément contractuelle, mais enfin l'obligation morale et artistique en quelque sorte de visionner la série en langue originale, en version anglaise.
Alors j'ai eu la chance pour Patrick Melrose de pouvoir voir les 5 épisodes avant d'attaquer le premier en doublage, mais généralement 90% du temps on arrive sur un plateau et on nous dit tu t'appelles comme ça, t'es le méchant, t'es le gentil, enfin voilà, tu sers à ça dans c'est tout, allez c'est parti, on regarde, on écoute une fois en version originale et on y va.
Ah d'accord, donc vous n'aviez pas lu les livres Patrick Melrose
j'ai pas lu les livres.
Mais alors comment on fait pour rentrer dans ce personnage si on a à peine vu la série, si on a à peine lu les livres voire pas du tout, et si on vous donne même pas le scénario, les dialogues, un petit peu en amont, on peut pas se préparer, vous jetez à l'eau tout de suite.
Oui, après c'est une question de... Mais après, pardonnez-moi, je ne me mets pas dans l'équation, mais c'est ça qui fait la différence entre les grands, les moyens et les moins bons. Les grands, c'est ceux qui, en 2 secondes, comprennent où on va et peuvent vraiment embrasser complètement un personnage dans toutes ses facettes. Et c'est ça qui fait la différence entre les grands et les moins grands.
Alors, les facettes du personnage, justement, Edouard Saint-Aubin, venons-y. Le personnage de Melrose, on l'a entendu hein, dans la bande-annonce, il est alcoolique, il est schizophrène, il est narcissique, il lui est suicidaire. Ça fait quand même beaucoup pour un seul personnage. Comment est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est né? À partir de quoi est-ce que vous l'avez créé?
Je l'ai créé à partir de ma propre expérience. Oui, c'est un alter ego.
Donc quelqu'un qui a énormément souffert, donc un personnage à base autobiographique. On peut dire que tout ce qui lui arrive vous est arrivé, Edouard Saint-Aubin?
Oui, à base autobiographique, mais il y a beaucoup d'invention et de j'étais pas là que dans la deuxième épisode qui est le premier roman et c'est un enfant de 5 ans, alors évidemment j'étais pas là au dîner de mes parents en train de prendre des notes pour mon roman sur la dialogue.
Non, mais la mémoire, quand on ressent des choses, quand on est traumatisé, ça reste,
alors,
évidemment.
Alors, J'ai beaucoup été inventé, mais le point de départ, c'est l'ambiance de mon enfance et de ma jeunesse, etc. Oui.
Et le personnage de Patrick Melrose, est-ce qu'il a eu sur vous des vertus thérapeutiques? Est-ce que l'écriture de cette série de livres vous a soigné, vous a permis d'aller mieux?
Non, pas immédiatement du tout. C'était pire. parce que je voulais, j'ai écrit sur des sujets que je voulais jamais adresser du tout. Alors c'est souvent le sujet de mes romans, ce que je ne veux pas dire plutôt que ce que je veux dire. Alors j'ai non, c'était une horreur d'écrire ces livres. Mais dans le long terme, ça certainement, ça fait partie d'un éloignement qui a des vertus. Oui.
Alors, il est toxicomane, on le disait. C'est pas du tout un junkie crado. Hein. Au contraire, il est toujours bien habillé. Il cache les marques de piqûres parce qu'il est héroïnomane sous ses costumes propres et très élégants. Il peut quand même se mettre minable en l'espace de quelques secondes. Et l'explication, c'est que ce personnage est habité par plusieurs fantômes. Et le pire de ces fantômes étant certainement celui de son père, David Melrose. Et le premier épisode de la série, qu'on va donc découvrir ce lundi sur Canal, démarre d'ailleurs quand Patrick Melrose apprend la mort de son père.
Je viens voir le corps de David Melrose.
C'était un homme remarquable.
Dans le sens peu commun, peut-être.
Patrick !
Les cendres de votre père seront disponibles demain en fin de journée.
Ah oui ? Et même en bâclant un peu ? De martini, s'il vous plaît.
Je ne bois pas.
D'habitude, j'évite aussi, mais avec le chagrin.
Tout va bien, monsieur.
Les antibiotiques.
L'histoire d'un homme dont le passé ne passe pas.
C'est l'heure de la vengeance. Bang, 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 bang.
De quoi veux-tu te venger?
De quoi veut-il se venger? On va pas tout spoiler, comme on dit. On le comprend dans le deuxième épisode hein, de la série. Les trois premiers épisodes sont diffusés ce soir, je le rappelle. On sent quand même, dès les premières minutes du premier épisode, que la relation entre le père et le fils a été, on va dire, assez particulière. On va parler du père dans un instant, mais encore quelques mots sur le fils avec vous, Gilles Morvan, puisque c'est vous qui, encore une fois, prêtez votre voix au rôle. Est-ce que vous pouvez être amené à modifier le texte, à couper un mot pour être bien calé sur l'image? Parce qu'on se dit que la grande difficulté pour une voix française, c'est d'être raccord, d'être vraiment à la seconde près. Oui, en accord avec les lèvres du comédien. C'est ça le plus dur?
C'est de la poudre de perlimpinpin,
ah,
c'est de la poudre aux yeux, tout
voilà,
ça.
Vous mais parlez comme un président de la République.
Ah oui. l'idéal, c'est d'être servi par un bon texte. Si l'auteur a bien fait son travail, on n'a pas besoin de couper, on n'a pas besoin de rajouter.
Le traducteur, en fait.
On appelle ça un auteur.
Un auteur.
En fait, c'est vraiment une adaptation. C'est vraiment une adaptation. On est obligé de tourner autour de ce qui a été fait. On ne fait pas une pure traduction. Et on a eu la chance sur la série d'avoir des textes vraiment, vraiment de qualité. Donc on a, mais oui, ça peut nous arriver effectivement de couper, de changer, parce que parfois il y a des erreurs.
Voilà. Aussi, mais donc vous disposez d'une liberté totale par rapport au texte. Quelle est votre liberté d'interprétation, votre liberté d'artiste, votre liberté de comédien par rapport à ce qu'on vous demande de faire?
La liberté, elle est relativement réduite. On est au service. Enfin, moi, c'est comme ça que je conçois mon métier. C'est d'être au service de ce qu'a fait, en l'occurrence, Benedict Cumberbatch et de ce qu'a voulu faire passer le réalisateur. Via Benedict Cumberbatch, s'il joue quelque chose, je vais pas me permettre de jouer autre chose, ni dans les mots, ni dans l'émotion.
D'accord, donc vous êtes vraiment la doublure, quoi. On peut
doublure voix. Totalement au service de ce que fait surtout quelqu'un comme Benedict.
Alors la liberté est donc réduite, et la liberté, le moins qu'on puisse dire, c'est que le personnage de Patrick Melrose n'a pas beaucoup bénéficié quand il était enfant de la part de son père, Edward Saint-Aubin. Le père, il s'appelle donc David. Il est joué dans la série par Hugo Weaving, qui a vraiment une présence très forte. C'est un personnage vraiment terrifiant, glaçant. Comment est-ce que vous pourriez nous décrire le personnage du père, sans trop en dire, hein, sans trop dévoiler à nos auditeurs, mais la figure du père de Patrick. Comment est-elle?
Je crois que Hugo Weaving a fait quelque chose d'incroyable avec David Melrose, parce que d'avoir quelqu'un qui est tellement méchant, tellement cruel, mais en même temps magnétique.
Oui, absolument.
C'est un mot français.
Il a beaucoup de charisme.
Oui, voilà. Il attire les gens pour les blesser, mais il faut qu'il les attire pour commencer, ou ils sont pas là pour être blessés.
Oui, parce que c'est un pervers, hein. C'est un homme cruel.
Oui, tout à fait.
Pervers, il aime jouer avec les gens.
Il joue avec les gens et il a une puissance extraordinaire que Hugo montre très très bien. Je trouve que les acteurs dans cette série sont incroyables. Benedict et Hugo et Jennifer Jason.
Voilà, Jennifer Jason Leigh qui joue la mère, hein,
qui joue la mère.
Elinor.
Oui.
Est-ce que il aime son fils, ce père-là, pour vous, Edward Saint-Aubin?
Non. C'est pas le premier mot que j'aurais choisi. Non, il veut le détruire. Et il vient très proche au succès.
Voilà. Et vous dites ça avec une forme de délectation, hein. Il veut le détruire. On dirait quelque part que c'est jubilatoire de le dire. Et ça correspond très bien finalement à l'atmosphère de la série qui est très noire. Qui est absolument terrible, avec vraiment des personnages horrifiants et horrifiques, mais avec des moments d'humour noir, des moments très drôles, des moments presque burlesques aussi, y compris d'ailleurs dans le jeu de Benedict Cumberbatch, avec des répliques qui font mouche. C'est ça l'humour anglais, Edward Saint-Aubin?
Oui, je crois que c'est l'humour anglais, et je crois que nous parlons avant de Shakespeare. Je crois que ça vient d'un part de Shakespeare, que Voltaire était affolé par horrifié par le fait que Shakespeare mélangeait la comédie et la tragédie. Il voulait nettoyer tout ça. Il voyait que Shakespeare avait du talent, mais c'était incroyable que Hamlet commençait à parler, faire des blagues, ou qu'il y avait un fou dans le roi Lear, ou qu'il y avait le concierge dans Macbeth. Il trouvait que c'était très mauvais goût. Mais je crois que pour les Anglais, cette mélange est plus naturelle, éventuellement à cause de Shakespeare.
Ouais.
Parce qu'il nous donne permission de mélanger les choses. Et c'est vrai que la vie ne vient pas en forme artistique. Elle est pas tragique et puis comique, elle est mélangée d'une façon étonnante et confusing.
Il y a une forme de confusion effectivement entre le rire et le tragique. Et c'est vrai que votre personnage, donc vous reprenez la voix, Gilles Morvan, c'est vraiment un personnage qui a la confluence des deux. C'est un personnage drôle. Ou c'est un personnage tragique?
Ah là là, il y a vraiment les deux. Mais Edouard a raison. La littérature française et le théâtre français à ces époques-là étaient très codifiés. On faisait du drame, on faisait de la comédie, ouais. On faisait rarement les deux en même temps. Mais ce que je retiendrai pour vraiment en résumer et vous donner une réponse claire sur ce que je pense de ça, c'est ce qu'il dit à sa maîtresse juste avant de rentrer dans la chapelle pour les funérailles de sa mère, où il lui dit. Il lui fait la différence entre le sarcasme et l'ironie. Voilà. Entre le sarcasme et l'ironie, le sarcasme qui n'a qu'un degré, l'ironie qui en a deux. Et il ne joue que là-dessus pendant tout le long. Il est dans l'ironie permanente. Et cet humour qui est glaçant par rapport à ce qu'il vit, et ce qu'il a vécu, et ce qu'il vit en permanence, le fait de le prendre avec cette distance-là et cet humour-là, ça va. C'est un diamant, ça.
Oui, parce qu'il a effectivement une capacité à prendre beaucoup de recul par rapport à lui-même. Il n'est pas complètement dupe, ce personnage, Edward Saint-Aubin.
Absolument. Et c'est très bien que Gilles a mentionné l'ironie, parce que c'est au cœur de cette œuvre. Parce que il dit que c'est l'envie d'être en deux endroits en même temps, de vouloir dire deux choses en même temps, et ce besoin rhétorique vient de racines psychologiques que je ne vais pas dévoiler pour pas être un spoiler, mais il y a des raisons profondes pour lesquelles il peut pas lâcher l'ironie. Alors pour ces livres sont un voyage vers la sincérité, vers pouvoir dire une chose qu'on croit réellement, plutôt que de rester dans l'ironie, un pied dans une interprétation, un pied dans l'autre.
Alors, Gilles Morvan, vous êtes la voix française, ou en tout cas l'une des voix françaises de Benedict Cumberbatch, mais aussi de Rockman Dunbar, rien à voir avec le héros de Dunbar et ses filles, mais le clin d'œil est là, dans Prison Break ou Mentalist, de Carlo Rota dans 24 heures chrono, mais aussi de Kevin James, Troy Winbush, Vincent D'Onofrio, hein, une des voix, là, il y en a beaucoup, aussi, hein, ouais. Et j'en passe, et puis vous avez aussi donné votre voix à des films d'animation comme Madagascar où vous êtes le pingouin Kowalski.
Démarrage opération, interview décontracté. C'est bon, oui, on démarre. Nos origines ? Eh bien, tout a commencé par un œuf, puis un crack.
Bonjour.
Et ensuite, une vie de mission secrète où nous frôlions la mort. Je recommande de faire feu tout de suite.
Non, on attend de leur voir le blanc des yeux.
Ils ont fait de la pupille. Il n'y a presque pas de blanc, trois fois rien.
Et s'ils regardaient tout à fait à gauche.
D'habitude, nous travaillons dans l'ombre, seuls. Enfin, presque toujours seuls. Et un jour, on est tombé sur des petits nouveaux. Le vent du Nord, il s'appelle. On opérait plus ou moins de la même façon.
Il n'y a qu'une solution pour vous mettre d'accord.
S'embrasser.
Le travail d'équipe.
Oui, voilà, le travail d'équipe. Pourquoi vous avez montré ça à tout le monde ?
Gilles Morvan, poser sa voix sur un acteur en chair et en os et sur un personnage de film d'animation, c'est exactement le même travail ou il y a des différences ?
Basiquement, c'est le même travail. Après, on aime plus, on aime moins. Moi, je sais que je suis pas très film d'animation. Ça m'amuse assez moyennement de doubler des chaussettes qui parlent ou quoi. Les pingouins, c'était vraiment, 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 vraiment chouette. Mais je trouve ça beaucoup plus drôle, beaucoup plus fun et beaucoup plus exigeant de doubler de vrais gens.
Mais votre voix, elle est toujours la même d'un personnage à l'autre. Vous la modifiez selon quels critères ?
L'énergie. Essentiellement. Et ce que j'entends en VO, généralement quand on m'appelle, c'est pour faire des gens avec des grosses voix. Mais j'ai pas qu'une grosse voix. Je peux aussi pas mal moduler. Non, c'est essentiellement l'énergie. Voilà, de ce que j'entends. Je reproduis ce que j'entends, ce que ça évoque, ce que ça provoque en moi.
Voilà. Et puis vous travaillez aussi pour la pub, pour des jeux vidéo. C'est important justement pour un comédien voix de multiplier les supports.
Important, j'en sais rien. Moi, j'ai la chance de faire à peu près tout ce qu'on peut faire avec la voix, chanter même.
Et la radio, pas encore.
Alors la radio, j'ai été la voix antenne d'une radio,
d'une autre radio
en région parisienne pendant 2 ans. Ça commence à remonter un peu, mais pourquoi pas.
Moi, vous la protégez ça. Votre voix, qui est votre outil de travail.
Bien sûr.
Principal.
Je fume, je bois, je ne dors pas.
Non. C'est la base pour tout comédien, ça en fait.
Tout comédien.
Voilà, merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous voir. Édouard Saint-Aubin et Gilles Morvan, Dunbar et ses filles. Le nouveau roman d'Édouard Saint-Aubin sort donc chez Grasset mercredi. Et donc la série, ce soir les 3 premiers épisodes de la série Patrick Melrose sur Canal+, et tous les épisodes disponibles sur Canal+, à la demande. Merci beaucoup.
Vous m'en direz des nouvelles ? Sur RFI.
Alors si je vous parle de Madeleine, l'évocation va peut-être d'abord vous ouvrir l'appétit, mais je suis sûr que vous serez aussi nombreux à penser à l'illustre passage de Proust, de Marcel Proust, dans La recherche du temps perdu, littérature et nourriture, deux thèmes qui sont familiers au jeune photographe Charles Roux, âgé de 25 ans. Il expose en ce moment ses créations à l'hôtel littéraire Gustave Flaubert de Rouen. Fanny Blechner l'a rencontré pour nous.
Fictitious Feast, c'est littéralement festin fictif. En français, c'est le nom de cette exposition qui regroupe une 20aine de ses œuvres. La première que découvre le visiteur, Hôtel Gustave Flaubert exige, fait référence à Madame Bovary.
C'est un grand banquet de mariage qui se passe dans un jardin, dans une maison bourgeoise en Normandie. C'est une des photos qui m'a demandé le plus de travail puisqu'il y a eu énormément de nourriture à préparer. Et notamment une gigantesque pièce montée que je voulais volontairement un peu grotesque, un peu de mauvais goût et assez exubérante. Pour jouer avec l'ambiguïté sociale et de références qui existent chez Emma Bovary.
Il faut dire que Charles Roux est autant passionné de littérature que de photographie.
L'idée de la nourriture dans la littérature était une force symbolique qui m'évoquait beaucoup de choses sur les comportements humains et que je trouvais particulièrement intéressant, en plus de mon affection pour les natures mortes. C'est toujours des romans que j'ai aimé lire, c'était important, pour lesquels la nourriture a porté un sens, c'est-à-dire en symbolique, en narration, des moments qui étaient iconiques. Quand j'ai eu l'idée, j'ai d'abord réfléchi à plein de trucs qui m'ont sauté à l'esprit, comme le thé d'Alice au Pays des Merveilles, la Madeleine de Proust, des choses qui parlent un peu à tout le monde. Et après, les recherches se sont faites de manière un peu plus lente et un peu plus académique.
Il mène un travail au long cours, ce qui était d'abord un book de fin d'études en 2014 est devenu un vaste projet.
J'ai jamais travaillé en studio parce que je voulais toujours travailler dans des endroits qui soient le plus réels possible. Ce qui fait que je suis allé dans diverses parties du monde. Je suis allé dans un diner aux États-Unis pour On the Road de Jack Kerouac, dans les Alpes en Italie en hiver pour la scène de Narnia, dans des maisons abandonnées ou des châteaux abandonnés pour tel ou tel livre.
Charles Roux n'utilise que de la lumière naturelle, ses toiles peuvent faire penser à des tableaux avec des effets de clair-obscur et un souci du détail très poussé.
C'est toujours de la vraie nourriture que j'ai cuisinée moi-même pour 99% des photos. J'essaye de trouver des objets qui visuellement m'intéressent et qui correspondent le mieux à l'époque, qui soient vraisemblables. Donc j'essaie le moins possible les anachronismes. Après, il y a une très grande variété d'objets parce que dans la plupart des photos, il y a une fourchette ou une cuillère. À chaque fois, c'est différent. Donc j'ai des tas de fourchettes et d'épareillés parce qu'à chaque fois, je voulais jamais utiliser le même objet sur deux photos différentes.
Mais il se permet aussi quelques fantaisies.
Une de mes préférées, c'est et une de celles qui parle le plus de gens, c'est Alice au Pays des Merveilles. C'est la scène chez le Chapelier Fou quand elle partage le thé. Que ça correspond pas tout à fait qu'à ce moment-là parce que j'ai utilisé des éléments qui appartiennent à d'autres parties des deux romans parce que ce sont deux romans différents, comme la bouteille est marquée Drink Me ou le biscuit est marqué Eat Me, qui correspondent à d'autres passages du roman. Et je me suis permis beaucoup de liberté. J'ai voulu garder une ambiance très anglaise avec beaucoup de tasses fleuries, de thé un peu différent, et aussi avec des anachronismes comme un glaçage violet qui est invraisemblable pour une époque victorienne. Mais dans un roman qui traite beaucoup de la folie, de l'invraisemblable, je me suis permis beaucoup de choses.
Ces œuvres photographiques parleront aussi bien aux lecteurs assidus qui ne manqueront pas la présence de la fourchette ensanglantée à côté du plat de haricots rouges pour vipère au poing, mais aussi aux amateurs de nature morte qui apprécieront l'harmonie des couleurs, la grâce d'une lumière et pourront pourquoi pas se raconter leurs propres histoires au sujet de ces plats qui semblent avoir été abandonnés.
Reportage de Fanny Blechner, une exposition à découvrir à l'hôtel littéraire Gustave Flaubert de Rouen jusqu'au 31 mars et qui rejoindra ensuite Clermont-Ferrand en Auvergne, puis Paris. Dans un instant, le journal. On se retrouve demain pour découvrir un superbe album de BD, Le Nouvel Atlas. Un récit d'aventure palpitant qui tient de l'Uchronie et du récit de genre et qui mêle robots géants, grands mafieux, hommes de main, petites frappes, périls écologiques et références politico-historiques et qui, en même temps, est profondément ancré dans la mondialisation de la planète. Avec nous demain, deux des auteurs, le scénariste Fabien Vellman et le dessinateur Hervé Tancrel. À demain et vous m'en direz des nouvelles.